Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct, on est présentement le 21 janvier sur ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, le podcast numéro 1 en boxe au Québec, malgré que je connais pas ça. On en parlera plus tard. Aujourd'hui, grosse semaine. Hier, j'ai écouté Michaela Mayer contre Natasha Jonas, puis croyez-moi, on va en parler parce que j'étais assommé. J'ai encore failli arrêter de vouloir regarder la boxe pour au moins 4 ans. Après, au courant de la semaine dernière, je me suis fait brasser, je me suis fait brasser comme de la porcelaine, d'un magasin de porcelaine, après qu'un cheval soit rentré, OK? L'expression, j'étais à l'aise comme un cheval de magasin de porcelaine. Premièrement, je me sacre pas mal de ce que les gens pensent de moi dans le monde de la boxe, mais il y en a quelques-uns que eux autres, ça me fait plus mal. Tu sais, quand ils me disent « Ah, t'as été ci, t'as été ça, ou t'aurais dû faire ci ou ça », là, il y a quelques personnes qui peuvent briser ma carapace parce que je les aime et je les respecte. Premièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'as été très arrogant la semaine passée ». Avec parce que tu as eu raison. Parce que j'ai eu raison sur Beterbiev et Smith. J'ai pas été un bon gagnant. Tu sais, j'ai comme ri de tout le monde. Je me suis moqué des journalistes en disant que tu sais, ils essayaient de pomper un combat qui n'en était pas un. Je me suis comporté de manière un peu comme un mauvais gagnant. Tu sais, j'ai peut-être fait abstraction du travail de journaliste qui est de rapporter des faits et non pas d'aller avec une prédiction en rapportant les faits. Tu sais, il y a des éditorialistes, il y a des columnistes, il y a des blogueurs, puis il y a des journalistes. Il ne faut pas tout mélanger. Dans le monde de la boxe, il y a des journalistes, puis il y a ceux qui font de l'opinion, mais on n'est pas nombreux. Fait que je ne peux pas mélanger tout ça. Tu sais, je ne peux pas demander au gars du Journal de Montréal, le journaliste, de dire Eddie Hearn est en train de tomber sa tête. T'sais, c'est pas sa définition de tâche. Et je me suis mêlé. J'étais tout à l'envers. J'aimerais m'excuser à la profession de journaliste et je vais essayer d'arrêter d'être arrogant, mais sans arrêter au complet parce que je pense que ça fait partie du personnage. Puis quand vous écoutez un podcast, vous voulez être diverti par quelqu'un qui est un peu, je dirais, hors norme. T'sais, c'est un peu ça, les podcasts. T'sais, j'écoutais cette semaine le podcast des personnages. Il reçoit des humoristes qui jouent des personnages, mais tu sais, c'est exagéré. J'écoutais Arnaud Soli, son nouveau podcast, c'est exagéré fois mille. Mike Ward, il est sous-mort. Ça, c'est exagéré. On n'est pas sous-mort dans la vie de tous les jours. Donc, je pense qu'un podcast, c'est un peu de, sans caricaturer ce qu'on est, un peu d'exagérer nos traits pour que ce soit intéressant. C'est André Arthur qui m'a dit avant de mourir, tu as la chance de parler à un micro, tu as le devoir d'être intéressant, de ne pas être plate. Donc, je pars avec ça de André Arthur. Et je vais essayer de me comporter un peu mieux. Avant de commencer, cette semaine, je vais vous parler du dossier Yvon Michel. J'étais moi-même accompagné de Régent Tremblay. Je pense qu'on était les deux seuls. Si j'ai vu la liste, il y avait aussi un journaliste de La Presse. C'est vrai, il faut que je fasse attention. Il y a un monsieur de La Presse qui a fait son travail, de monsieur de La Presse canadienne. Il y avait un monsieur de La Presse, il y avait moi, il y avait Régent. On a assisté à la comparution du groupe Yvon Michel devant la régie des alcools, jeux et courses. Je vais vous raconter ce qui est arrivé, puis je vais vous un peu comme Je sais pas. On va en jaser. On va jaser. On va faire ce que je fais le mieux, on va jaser. Après ça, on va parler du gala de Eye of the Tiger le 25 janvier prochain. On va faire le tour un peu à l'international. On va parler. Je vais faire la nomenclature de la carte qui s'en vient. Vous allez voir, là. Ça va être bien le fun. Bien le fun. Ce podcast-là. Puis, ça va être un beau 45 minutes qu'on va passer ensemble dans la joie et dans l'allégresse. Beaucoup de gens me parlent qui veulent s'inscrire à fightnight.co pour, de un, sacrer une volée à Siama Kramati ou se battre dans leur catégorie de poids. Le gala a lieu le 30 mars prochain à Trois-Rivières et c'est votre chance, là. L'après-midi à 13h, on a la boxe. C'est un gala de boxe avec des gens du public qui s'entraînent pendant 4 mois, transforment leur vie, se trouvent un gymnase, font un événement de calibre professionnel, la pyrotechnie, la musique rock. Ça va être. Il y a même mon bon ami Tony Sayer qui va venir rapper. Ça va être incroyable. Présentement, on est à l'étape des inscriptions. C'est ta dernière chance cette semaine. Fightnight.co, tu veux t'inscrire? Catégorie de poids, club affilié, à quel poids tu veux te battre, ton expérience, tu remplis le formulaire. Benjamin trouve un adversaire. C'est comme si tu étais un boxeur pro. Donc, allez vous inscrire en grand nombre. Sinon, il va y avoir plusieurs galas en 2024. À 13h, c'est la boxe. Et à 19h, c'est kickboxing. Ça va être complètement fou. Moi, je passe ma journée-là au complet à Trois-Rivières. Je pense même devenir un habitant de la ville de Trois-Rivières, puis m'acheter peut-être une résidence secondaire là-bas. Donc, fightnight.co, écrivez à Benjamin H. Théberge ou fightnight.co, achetez-vous des billets. Benjamin est tombé sur la tête, t'achètes un billet, donne le deuxième à moitié prix. Ça va être un peu comme le Super Bowl des sports de combat. Benjamin, merci de me faire confiance, même si... comme commanditaire, t'es un peu comme mon patron. Je t'aime comme un ami. Ouais. Donc, c'était ta chronique publicité. Mais abonnez-vous. Pas abonnez-vous, inscrivez-vous, allez vous battre. Moi, même moi, je pense aller me battre. C'est juste que je suis un peu gras. Cette semaine, je me lève un matin. Je pense qu'on était... On était quelle date? On était le 18 janvier. Je me lève un matin. Je suis tranquille au travail. En train de trier mes boîtes. Puis il y a beaucoup de monde qui me disent, qui écoutent mon podcast et entendent que je trie des boîtes toute la semaine. Puis là, la journée, qu'ils sont pas contents avec une de mes prédictions de boxe, ils disent « Ben c'est ça, Poulain, va trier tes boîtes, tu connais rien, t'es juste un trieur de boîtes. Hey, » je voudrais juste dire aux gens du monde de la boxe, là, ça peut être ceux qui m'insultent sur mon podcast, ça peut être Ross Amber qui a dit que les gens qui pensaient que Callum Smith avait pas de chance, ils connaissent rien à la boxe. C'était après que Matt Cazavet a nommé mon nom. Oh, j'adore Ross Amber. J'ai grandi en écoutant son émission Dans le coin à TSN. Mais Ross, je me laisserai pas quand même insulter gratuitement. Je suis pas. Je suis pas si faible que ça. Là. Je veux dire, Ross, si ton seul argumentaire. Après que j'ai eu raison, je te dis que je connais pas ça parce que j'ai pensé que Callum Smith allait pas être bon après avoir vu ses combats contre Canelo et John Ryder où il est mauvais sous pression, il fait juste s'accoter d'un cadre puis attendre sa droite. Oh, je sais que t'es ami avec les quatre frères, mais il a pas été de calibre, j'ai eu raison. Prends sur toi un peu, puis laisse-moi celle-là, tu sais, tu gagneras les 9 prochaines parce que toi, tu connais ça. Mais à la base, c'est de la franche camaraderie, là, tu sais, je vais peut-être pas apprécier nécessairement les propos, mais je veux dire, j'ai continué ma journée en souriant, et juste dire que je me laisserai pas taper sur la tête gratuitement, ok, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ok, que leur argumentaire sur Laurent Poulain connaît pas ça, c'est, il travaille au bureau de poste, tu sais, parce que je parle de ma vie couramment, puis j'ai perdu de l'argent dans le gambling, donc... J'étais pas capable de trouver les bons boxeurs pour gagner. Je trouve ça un peu mince, tu sais. Arriver avec de l'argument. Moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Vous voulez un débat, là, je vais débattre. On va débattre sur les styles de boxeurs. On va débattre sur les fiches. On va débattre sur qui a gagné quel combat. Mais pas débattre sur quelle est ta profession du lundi au vendredi qui fait que ton commentaire est pas bon. C'est un peu ça qui m'a fâché, là, mais merci de m'écouter. Ça m'a comme libéré le cœur. Après, cette semaine, je vais revenir à mon dossier prioritaire. J'étais à la comparution parce que je suis au travail en train de trier des boîtes. Et là, je reçois un courriel qui dit « Dans 45 minutes, Yvon Michel va comparaître devant la régie. Ça a été devancé. » Là, moi, je dis « OK, je vois qu'il y a un lien. » Je clique sur le lien et je me ramasse direct dans la discussion qui a pas lieu au palais de justice, là, que tout le monde est dans sa maison sur Team. Là, je suis en train de regarder ça. Et là, je vais vous dire exactement ce qui est arrivé. Okay? Bon, là, Yvon, il n'est pas là, premièrement. C'est juste Alexandra Croft qui est là. Okay? Et là, il y a deux avocats. L'avocat de la régie il a peut-être 35 ans. L'avocat de Yvon Michel, l'avocate, elle doit avoir peut-être 23, mais elle a l'air d'avoir 12 ans. Okay? Elle a l'air vraiment jeune. Elle a l'air ce qu'on appelle une junior dans le domaine de l'avocat. Là. Ben, peut-être vieille en même temps, je ne suis pas super bon pour trouver les âges, mais elle a l'air de sa première comparution devant la régie. Tu sais, il y a des technicalités là, qu'elle avait comme pas compris. Okay. Fait que là, c'est Alexandra Croft qui est là. Là, il y a un avocat de Yvon Michel. Et je sais que c'est plate, mais là, mais il faut faire un peu de judiciaire cette semaine. En gros, il dit Yvon Michel. C'est des avocats, hein. Ils vont jamais utiliser des phrases comme « on reconnaît nos torts » ou « on est coupable ». C'est vraiment de l'avocat, là. Il dit « d'un accord commun entre les avocats de la régie et les avocats de Yvon Michel, nous croyons que 60 jours, c'est assez ». Puis là, ils vont d'un grand exposé. Ça dure 13 minutes en tout, de A à Z. Là, la juge, elle prend son petit marteau virtuel. Là, elle dit 60 jours, c'est parfait. Puis Yvon et Alexandra Croft indiquent que par-dessus ça, pendant 6 mois, ils ne se présenteront pas à leur propre gala, sauf Croft qui peut aller au pesé. Mais en aucun temps, ils vont dire nous sommes responsables, nous avons fait ci. Tu sais, ça, ils ne le font pas. Ils font comme amende honorable. Une fois, on a dit ça ne se reproduira pas là. Mais tu sais, il n'y a pas un journaliste qui dit « Mais qu'est-ce qui ne se reproduira pas? » Non, non, c'est juste « Ça ne se reproduira pas. » Puis là, comme tout le monde est satisfait. Fait qu'en gros, moi, ça je me suis comme questionné sur le système. Tu sais, moi, si j'avais été l'avocat de la régie, j'aurais dit « Moi, j'ai mes témoins, mais je veux que ça sorte. Je veux que le public sache qu'est-ce qui s'est dit. Yvon Michel, quels mots ont été lancés à Albert Padoulot, parce qu'on pensait que Padoulot était Roussel, vu que les deux se ressemblent avec la tête avec pas beaucoup de cheveux. J'aurais aimé ça, moi, ben c'est peut-être de la curiosité, mais j'aurais aimé ça que la comparution ait lieu puis qu'on entende les vrais mots. Qu'est-ce que Alexandra Croft a dit à Benoît Roussel à l'extérieur quand il sort avec deux membres de la sécurité? Là, on demeure sur des oui-dire, on demeure sur le jeu du téléphone arabe, comme quand on était petit à maternelle, mais on n'a pas eu les faits qui ont été exposés. Fait que je crois que dans cette situation-là, Yvon Michel a vraiment, désolé de tousser dans le micro, ça fait pas très pro, Yvon Michel a vraiment passé la régie dans la mitaine. Parce que anyway, il avait pas envie, tu sais, à quand Kim Kla... Elle sera pas long, je vais juste mourir puis je vais revenir. Quand Kim Clavel a perdu contre Evelyne Bermudez, on entendait là, tout de suite après les rumeurs, Yvon il a dit à tout le monde qu'il ne revenait pas avant février. Okay? Il l'avait dit à tout le monde. Puis ça faisait du sens. T'sais, Kim n'allait pas revenir tout de suite de sa défaite. Marie Pierrot, elle a un conjoint milliardaire. Fait que c'était sûr qu'eux autres, c'était les voyages puis tout ça. Elle pouvait. T'sais, elle a les moyens d'attendre 3 mois. Là. C'est une vie d'abondance, la vie des Farley Hood. Là, t'as Caroline Vert qui est capable de se trouver des combats par elle-même. T'as Mathieu Germain qui prend toujours 8 mois de ses combats. Puis Masloum, lui, doit trouver ça un peu moins drôle. T'sais. Fait que ça faisait du sens de fermer la compagnie jusqu'en février. Finalement, on la ferme jusqu'au 14 mars. T'sais. Bien joué, Moi, je trouve qu'Yvon gagne sur toute la ligne. On n'a pas besoin de faire témoigner des gens qui vont répéter les propos. Il n'a pas besoin de témoigner lui-même. Anyway, on est dans une année olympique. Yvon est sur le comité olympique canadien. Yvon Michel a... Yvon Michel, selon moi, semble avoir gagné sur toute la ligne. Et en gros, la seule fois qu'il s'incrimine un peu, c'est quand il dit « j'ai commis une erreur et je suis repentant ». C'est pas mal ça. Bravo Yvon. Et par le fait même, ce que j'ai trouvé drôle, moi, c'est qu'au lendemain de sa comparution et de son... du fait qu'il semble s'avouer coupable, on peut dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ben oui, il semble s'avouer coupable, il annonce tout de suite 3 galas, boum, tu sais, il niaise pas, là, fait que c'est un peu drôle, tu sais, genre, ah, suspendez-moi, mais, tu sais, il y avait déjà des dates pis tout, là, tu vois que il l'a fait avec un... il a sorti ses dates le lendemain avec un petit sourire en coin, j'ai l'impression. Et là, on va ramener Kim au mois d'avril, on va ramener Germain au mois de mars et Agdenis au mois de mai. C'est sûr que quand tu as juste 5 boxeurs, j'ai hâte de voir qui vont mettre en sous-carte. Est-ce que ce sera Terry Ozias? Des rumeurs. Est-ce que ce sera Francis Lafrenière qui s'entraîne 6 jours par semaine et ses abdos? Est-ce qu'on va signer des jeunes boxeurs? Est-ce qu'on va simplement donner des spots à la gang de Lee Baxter en Ontario? Mais écoute, je ne le sais pas. Donc, c'était Yvon Michel qui va rentrer dans son 20e anniversaire et ne pourra pas être là pour souffler ses chandelles. Cette semaine, grosse semaine, mardi, je pense que j'ai le droit de le dire, je ne sais pas. Je me dirige au Casino de Montréal pour le lancement de Punching Grace, la nouvelle mouture. Punching Grace, le site internet qui s'est donné un look que je dirais très 2024, peut-être est arrivé au goût du jour. Magnifique site, ils ont engagé des surdoués pour écrire des textes de boxe, c'est-à-dire moi et Noé Cloutier. Donc on parle de vrais surdoués, là. Et cette semaine, je vous dirais de ne... comment je vous expliquerais ça, les gens à la maison? Prenez donc congé vendredi, parce que jeudi soir, ça vaut la peine de regarder ce gala de boxe très, très sérieusement. Okay? Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi Poulain? Premièrement, il y a 8 combats présentés par Eye of the Tiger, mais il y a des affaires assez... on va avoir des réponses à plusieurs questions, pas plus tard que cette semaine. Pourquoi? Moreno Fandero va ouvrir le gala sur un 4 rounds contre Ricardo Lara. Ça, je suis un peu surpris parce que il me semble que Lara, il a assez de boxe pour surprendre Fandero et peut-être faire un match nul. Okay? Ricardo Lara sur un 4 rounds, êtes-vous tombé sur la tête, Saint-Joalvert? À ses derniers, il a perdu au 3e contre Jesse Wilcox. Il a fait un combat nul avec Sébastien Demers. Il a failli battre Tony Lewis. Il a affronté Baptiste Jukanbaev. Là, il affronte Fandero. Mon Dieu! Il a affronté, là, c'était le 23e adversaire de Bouchard, le 17e adversaire de Jukanbaev, puis c'est le 4e adversaire de Fandero. Vous tombez sur la tête. En tout cas, tant mieux pour nous autres. Weekends Mathieu va affronter Ivan Levix, ski, OK? On en voit trop des boxeurs de même. C'est un Letton qui a une fiche de 36 victoires, 44 défaites, 15 défaites par KO. Ça, c'est toujours surprenant, OK? Les gars, eux autres, ils font leur carrière au complet. Ils se battent dans des... ah, vous me croyez pas. Laurent, il exagère. OK. Allez voir, prenez un de ses combats en 2015. Rentrez les noms, OK, dans YouTube, puis regardez. Ils se battent. Là, vous me croyez pas. Le Laurent, exagère. Allez voir. C'est des fiches gonflées dans des cafétérias, pas de public. Laurent, il exagère. Allez voir. C'est mon poignet nerf. Ils se gonflent des fiches dans des cafétérias. Des galas où personne n'est payé. Ils se donnent une coupe de claques à la gueule. Là, ils trouvent un gagnant. Puis là, après ça, ils nous sacquent ça à la télévision. Okay? Après ça, ils se montent une fiche puis ils obtiennent des combats à l'étranger. Ce gars-là qui vient affronter... Moi, j'en reviens pas encore, le week-end de Mathieu. Il y a une victoire à ses 10 derniers combats. Je sais pas. C'est la régie. Acceptez n'importe quoi. Après ça, vous direz... me semble que c'était pas compétitif. Mais oui, il y a une victoire à ses 10 derniers combats. Celle-là, je la comprends pas trop. Je comprends qu'on veut y aller doucement avec week-end de Mathieu, qu'on veut pas précipiter les choses. Mais tu sais, de là, aller chercher un adversaire qui a une victoire en 10 combats... Mais je suis un petit peu étonné, genre, mais en tout cas, faites ce que vous voulez. Peut-être ça va être bien bon. John Robbio, lui, va affronter Juan Carlos Ramirez. Je crois que c'est... Est-ce que là, je vais juste pas me mettre un pied dans la bouche. Je crois que c'est le premier 6 rounds de Robbio. Non, c'est son deuxième 6 rounds. Juan Carlos Ramirez Garcia... pas grand-chose à dire. C'est un gars qui a fait la limite avec Eric Basran à la Place Belle et avec Spencer Wilcox au casino. Wilcox et Basran, c'est peut-être ce qu'on a eu de mieux sur la scène amateur au Canada dans les dernières années. Donc, on va pouvoir placer Robbio avec les deux autres. Pour ça, ça m'intéresse. Evry Martin Duval va affronter Jesus Gomez Adorno. Un boxeur invaincu, ça c'est toujours le fun parce que tu sais jamais le plafond de l'invaincu, il est où. Donc, puis l'invaincu, il n'est pas habitué de perdre, donc ça ne tente pas de commencer ça à Montréal. Fait qu'il va probablement vendre chèrement sa peau. Steve Caglaguette va affronter Marcos González Barraza, son ami Papita, qui veut dire pépite de poulet. Lui, il veut rester... Claguette voulait rester actif. Il y a eu des rumeurs que Claguette pouvait affronter... comment il s'appelle? Je viens d'oublier son nom. Là. Champion WBA, frappe comme un train, avait tué Maxime Dadachev. Écoutez, le nom va me revenir. Quoi que je pourrais regarder en vous parlant. Il y avait des rumeurs que Claguette aurait pu affronter le 30 mars prochain ou le 25 mars sous Brielle Mathias. Le nom est revenu, c'est ça, être un professionnel. Là, finalement, à place, il va rester actif. Écoutez, son adversaire, là, il a juste une défaite à ses 9 derniers combats. Puis c'était contre un Kazakh qui sortait des rangs amateurs avec toutes les médailles dans la nuque. Ça risque d'être bon. C'est Steve Claguette ne te donnera jamais un mauvais combat. Dans la catégorie des affaires qui m'excitent. Marie Spencer va affronter Sonia Drelling. Drelling est sixième sur BoxRec. Drelling là, a gagné un round contre Oler, un round contre Miller, puis n'a pas gagné de round contre O'Shea Jones. Elle a fait ses débuts pro. C'est l'adversaire parfait pour remettre Spencer dans le bain, la réhabituer à faire une coupe de poids, à faire une coupe de round, et ramener Spencer vite. Spencer... Tu sais, je regardais hier, c'était du très haut niveau entre Natasha Jonas puis Michaela Mayer. Moi, j'ai capoté. Est-ce que Spencer pourrait suivre ce niveau-là? Je sais pas, mais je serais game de l'essayer. Est-ce que Spencer peut battre Emma Cousin ou Anna Rankin? Oui, ça c'est certain. Est-ce qu'elle a si mal fait que tu sais, on pourrait pas la placer pour une trilogie contre... Femke Herman, peut-être que ce serait le même résultat, mais tu sais, pour jamais 203, c'est pas moi qui ai inventé l'expression. Moi, je pense que ça vaut la peine de s'essayer avec Spencer et essayer de la reparachuter en championnat du monde, si possible, contre quelqu'un d'autre que Femke Herman. Puis si impossible, ben, ce sera Femke Herman. Mais je suis content de voir que Spencer se remet vite sur pied et se relance. Éric Bazignan va affronter Billy Facundo Godoy. Mais pour vrai, ça, je l'ai dit à chaque semaine, ils savent plus quoi faire avec Bazignan. Quelqu'un m'a suggéré cette semaine que Bazignan, avait, depuis qu'il a perdu son père, c'est plus le même homme à l'entraînement, puis au niveau de la motivation, de la misère à se remettre de la perte de son père qui est arrivée de manière subite. Je sais pas ça, mais je sais que d'un point de vue boxe... T'sais, on parle d'un gars que ses dernières victoires là, à Godoy sont survenues contre des 13-42, 6-9. Il a battu un... Il a perdu contre Walter Kodo-Dokwa au cinquième. Ça doit être sur ça qu'on s'accroche, mais ça fait 6 combats. Ça fait 6 ans de ça. Il n'a pas gagné un round contre Vincenzo Gualtieri, genre, qu'on a vu contre celui qui a dévissé Alim Kanouli. Genre. Fait que là, je sais pas trop, tu sais, c'est quoi le plan avec Bazinyan, parce qu'à un moment donné, si on veut que Bazinyan puis Mbili deviennent des incontournables pour Canelo, tu sais, Juan Murdoch, c'était le fun. Godoy, c'est le fun, mais tu sais, c'est quand qu'on va me... Moi, j'ai hâte qu'on me dise « Laurent, il faut absolument que tu viennes à une conférence de presse, que je me pointe au restaurant de Centre Bell, c'est Caleb Plante qui est là, tu sais. » Puis pour Mbili ou Bazinyan, tu sais, la victoire qui va forcer la main à Canelo, pas... On bat le 174e au monde, puis Canelo va apparaître d'une boîte à surprise, puis il va nous donner 8 millions. Tu sais, je trouve que c'est plus compliqué que ça, la vie. Un jour, quand j'étais encore un enfant, il y a à peu près, je vous dirais, 6 ans, si ma mémoire est bonne, en 2017, on me fait venir d'une tour à condo. Non, on me fait venir d'une tour, le musée Pointe-à-Calière. Il y avait une pesée, OK? C'était c'était David. On nous annonce cette journée-là, David Lemieux. Hey, c'est ma journée où je cherche tous mes noms contre Curtis Steven. On nous annonce ça, OK? Mais Curtis Steven, il est sur place. Il est embarqué dans l'avion. Et cette journée-là, Anna Riva arrive avec un grand gars magnifique. Julie Bertrand tombe en amour avec quasiment instantanément. Elle en a oublié son Régent Tremblay. Puis là, ce grand gars-là, on nous dit « futur champion des poids lourds » parce qu'il est jeune. Puis là, il pèse 188 livres. Là, je le regarde, il est à 6 pieds 2. Il me semble qu'on a le poids lourd facile. Puis là, il est beau. Il a 21 ans. Il est beau. Il est fin. Puis là, on nous dit qu'il va commencer sa carrière. Il commence sa carrière, je vous parle bien sûr de Arthur Ziadinov, qui passe pro avec Eye of the Tiger. Il est entraîné par Stéphane Larouche. On est en 2017. Là, il va gagner au premier round. Il gagne en une minute, tenez-vous bien, c'est à l'Olympia. La sécurité avait mal reçu le courriel, il n'avait pas encore ouvert la salle. Fait que les journalistes, on pouvait rentrer à 5h30, public, mettons, à 7h, parce qu'il s'était trompé. Puis Ziadinov, il a gagné à 6h45 devant moi. Puis Matt Cazavant, puis Manny Montréal, tu sais. Il n'y avait personne. La salle n'était pas encore ouverte quand il a passé pro. Petite erreur de jeunesse. Là, ils vont se mettre à l'engraisser, tu sais, parce qu'ils continuent à croire à leur histoire des poids lourds. Fait qu'on est en 2017. Il gagne au premier, puis au premier. Tu sais, ça, c'est son année. Hein. Il va monter, il va même se battre à Sorel Tracy. Il va monter à 195 livres. Là, il fait son année 2018, ça va, tu sais, la vie est belle. Mais là, la chicane pogne. Fait qu'il perd Stéphane Larouche comme entraîneur. Fait que là, il tombe entraîné par Marc Ramsey. Là, après ça, la COVID arrive. Fait qu'il s'en va en Russie, puis il sait plus trop quoi faire. Puis il demande pour faire des combats en Russie, puis on lui dit oui, OK? Mais il va perdre contre Gazan Gazanov, qui est un journéeman de luxe. Il va perdre... il voulait une ceinture russe, puis il a perdu. Okay. Eye of the Tiger va le lâcher. Il va gagner de peine et de misère contre David Gladon. David Gladon, là, c'est un prospect russe à l'époque, puis il va le battre de peine et de misère. Puis là, ça va pas bien. Et là, tenez-vous bien, il y a une gang d'Halifax, 3 Lions promotion avec Lou DiBella. Il signe moitié-moitié, il le ramène au Canada, on a du budget, la vie est belle. Il gagne son premier combat contre Jesus Moro Yokwai. Là, il rentre en camp d'entraînement du jour A jusqu'au jour Z contre Arthur Beterbiev. Il endure tout ce qui bouge. Il s'entraîne pour son combat. Il survit à Beterbiev où lui, il est plus grand que Beterbiev, fait qu'il plagiait un peu Callum Smith. Et là, boum! Albert Ramirez est supposé affronter Charles Foster, numéro 2 contre numéro 6. Foster se blesse à l'entraînement. On commence à se gratter à la tête pour trouver un adversaire. On dit, mais voyons, c'est parfait. On l'a à l'Arthur Ziadinov. Fait que Ziadinov, avec son chapeau de poêle canadien, s'en vient affronter Albert Ramirez, l'ancien employé d'Eye of the Tiger contre le nouvel employé d'Eye of the Tiger. L'ancien prodige qu'on disait qu'il allait être champion du monde des lourds contre celui qu'on dit qui va être champion du monde des 175 quand Beterbiev va se retirer. C'est parfait. Prenez mon argent. J'ai hâte en maudit de voir ce combat-là s'isoler sur Dirome. C'est la première fois qu'on va voir Albert Ramirez qui est classé numéro 2 au titre de Dimitri Bivol au Canada, parce qu'on ne l'avait pas encore vu. On nous dit grand bien. On l'a signé à fort prix. C'est un gaucher qui a 15 KO en 17 combats. Hey, j'ai hâte. Ça, là, tenez-vous bien, les amis, c'est le combat de la semaine au Canada. Et c'est le combat qui m'intrigue le plus cette semaine. Je suis intrigué. Moi, laissez-moi donc être intrigué. Hein. Puis c'est quoi je voulais vous dire d'autre? J'avais une autre nouvelle pour vous autres. Qu'est-ce que j'avais? Là, on est hier, c'était le 20, le 25. Ah ouais, j'ai quelque chose. Custio Clayton il va affronter Courtney Pennington en Nouvelle-Écosse le 2 février prochain. Puis Volney va affronter DeAndre Ware. La boxe canadienne a besoin de Volney qui se bat une couple de fois, là, qu'on sache où aller avec lui. Donc, j'étais quand même content. À suivre dans le cas de ces deux boxeurs-là, c'était, après ta chronique Yvon Michel, c'était ta chronique Eye of the Tiger / Volney et Clayton. Donc, on va se diriger à l'international. Je prends l'avion pendant ma pause. Podcast où je suis en train de pogner la grippe en vous jasant. J'ai commencé le podcast en pleine forme, puis là, je sais pas, c'est peut-être à cause que je suis mal assis sur ma chaise, mais je suis en train de me pogner dans la gorge. Je pense que je vais mourir avant la fin. Chronique, ta chronique préférée, la chronique internationale. Hier, j'ai repris goût, tenez-vous bien, je vais aller voir ça. Hier, j'ai repris goût à la boxe, mesdames et messieurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une journée. Moi, d'habitude, là, des fois, là, je tripping sur ma chaise. Tu sais, mettons, je suis sur ma chaise chez nous. Puis là, je pogne des envies de sortir. Puis là, je pars. Puis je rate les combats. Je l'avoue, je rate les combats parce que j'ai envie d'aller me promener, d'aller dans les bars, d'aller chez mes amis. Puis là, hier, il faisait fret. Personne ne faisait trop rien. Fait que je me suis installé, puis je l'ai écouté le combat. Hier. De Michaela Meyer contre Natasha Jonas. Puis je vais même vous surprendre, puis peut-être vous faire de la peine à la maison. Hier, là, j'avais le goût de laisser faire, mais j'ai pas joué une pièce depuis le 1er juin dernier. Puis hier, ça m'a tourmenté toute la journée. Je me disais, c'est trop évident que Michaela Meyer va battre Natasha Jonas. Elle est plus grande, elle a plus de boxe, tout est mieux. T'sais. Puis là, je me suis dit, c'est bien beau que je gâche plus, mais est-ce que je peux vraiment laisser de côté des opportunités de faire de l'argent? T'sais, je voyais plus ça comme un pari, je voyais ça comme une opportunité. Puis là, ben, je me suis ressaisi. Finalement, je me suis dit, bon, tu sais, tant qu'à gager 50$ pour en gagner 30, puis scraper ma séquence, puis peut-être retomber dans la maladie mentale, tu sais, du gambling. Tu sais, moi juste laisser faire, puis je vais pas jouer. Tu sais. Puis là, j'ai pas joué. Puis là, je vois mon combat, puis là, Michaela Meyer, moi, je la vois, là, elle a gagné 7 rondes à 3. Fait que là, je me dis, en plus, j'aurais gagné. Je suis revenu, hein, je peux faire de l'argent avec les paris sportifs. Là, je recommençais à rentrer dans ma maladie. Mais là, je me rappelle qu'on est en Angleterre. Puis combien de fois j'ai perdu de l'argent à cause des maudits Anglais qui me donnent des mauvais résultats. Combat fini. Natasha Jonas, premier juge, 96-94. Voyons! Ils ont-tu la même affaire que moi? Deuxième juge, 97-93, Maillard. OK, on peut peut-être s'en sortir. Troisième juge, 96-95, Jonas. Je me serais encore fait voler de l'argent par les maudits juges anglais. Puis là, ben là, je suis convaincu, il faut surtout pas que je gage. D'un, tu peux te faire voler par les Anglais. Tu peux te faire voler par les Allemands. De trois, je peux me tromper. Des fois, ça m'arrivait de me tromper. Fait que là, c'est fini. Je gâche plus. Jamais! J'ai failli flancher, mais je me suis ressaisi. Dans les nouvelles internationales, Kell Brook, parlant encore de retour, aimerait affronter Chris Eubank Jr. Je sais pas, Kell, il a peut-être besoin d'argent, je ne sais pas. Soubriel Mathias est prêt à affronter Devin Haney le 30 mars prochain dans ce qui pourrait être les débuts de PBC sur Amazon Prime. On entend plusieurs rumeurs, comme si tout le monde voulait être les débuts sur Amazon Prime. On verra bien qui va gagner ces fameux débuts. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Roy Jones Jr. A lancé du feu. Lui, il veut voir Devin Haney contre Tank Davis. Je sais pas pourquoi, ça. C'est une idée qu'il a eue, ça. Je sais pas. Ça brasse cette semaine entre Ryan Garcia, il y a Rolly Romero, il y a Pitbull Cruz. Là, il y a De La Hoya qui parle d'affronter José Ramirez. Ryan Garcia qui sort publiquement pour désavouer son promoteur en disant « Il n'y aura pas de José Ramirez. » Voyons, c'est donc bien bizarre, ça. Cette semaine, Sugar Ray Leonard a essayé de ramener à l'avant-scène que le combat qu'on a besoin, c'est Terence Crawford contre Canelo. Puis c'est même demandé est-ce que c'est ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est le méga fight que la boxe a besoin? Je sais pas trop, il s'en va où avec ça, lui. S'est levé un matin, il a sorti ça. Ah ouais, on sort un combat. Ah ouais, la vie est belle, on sort un combat. Frank Martin parle qu'il pourrait affronter Gervonta Davis. Vous voyez, tout le monde veut affronter tout le monde, mais surtout pour remplir son compte chèque. C'est un peu... je sais pas des fois quoi penser. Beaucoup de rumeurs de combat, beaucoup... je sais pas. Anthony Joshua dit que jusqu'à la fin, il sera au sommet du monde. Après, il va se retirer. Il dit qu'il a retrouvé la formule, qu'il est à l'aise. Puis moi, j'ai l'impression que Joshua va jouer avec Ngannou, mais... Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une Fury qui était mauvais? Ou Joshua qui... Ou Ngannou qui est vraiment bon? Je sais plus quoi penser. Je sais pas quoi vous dire. C'est réglé. Jack Catterall va affronter Josh Taylor, la revanche. On se rappelle qu'au premier combat, il y avait tellement eu un gros vol que les Irlandais, le ministre du sport irlandais avait même fait une enquête publique. Fait que, à suivre. Roy Jones aussi, qui avait beaucoup de jasette, a dit que Bivol allait déclasser Beterbiev. Beterbiev qui est légèrement favori si le combat a lieu un jour. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Zay Lezang affronterait Joseph Parker en demi-finale de Ngannou et Joshua. Quel beau combat, ça! Prenez mon argent encore, je veux regarder ça. Callum Smith, lui, accepte la défaite. Il a dit « frappe trop fort, t'es meilleur que moi ». Mais ses frères, arrête pas de chialer. Fatigant, ses frères. Joe Joyce va affronter... comment il s'appelle? J'ai oublié de le noter. Joe Joyce va affronter Cash Ali. Il veut renettoyer l'Angleterre avant de se relancer dans le monde entier. Tenez-vous bien, le monsieur d'Arabie Saoudite qui veut nous donner tous les combats qu'on veut parce qu'il est milliardaire 25 fois, là, il parle que ça pourrait être lui qui nous donne aussi Terence Crawford contre Jaron Boot Ennis. Il dit, tu sais, dans le fond, tous nos problèmes qu'on a en boxe, on n'est pas capable d'avoir Jaron Ennis contre Terence Crawford, on n'est pas capable d'avoir Canelo contre Benavidez, on n'est pas capable d'avoir Beterbiev Bivol, on n'était pas capable d'avoir Usyk contre Fury, mais ce serait tout ce beau monsieur-là, Turquie à la chic, qui nous les achèterait toutes. Turquie à la chiche, là, c'est vraiment comme, mettons, moi, je suis la plus belle fille du bord, puis je rencontre un monsieur, puis le lendemain, si je vis dans une maison en or, puis j'ai deux Porsche, puis je retourne à l'école avec des professeurs privés, là, ça n'a aucun sens. Là. Le fait que Turquie à la chic ait choisi la boxe, c'est à peu près la plus belle affaire qui aurait pu arriver dans nos vies. Je. Merci. Moi, je vois ce monsieur-là, mais je me pitche à terre, j'y embrasse les semelles. C'est sûr, là. Genre, ce monsieur-là va tout nous donner ce qu'on veut. Je t'aime, Turquie. Bon, Teofimo Lopez veut affronter le monde entier, comme d'habitude. Il a lancé des défis à Annie et Terence Crawford. Beaucoup de gens nous disent que ce sera Tim Zhu qui va affronter Terence Crawford en attendant que Errol Spence se fasse... arranger les cataractes. Beterbiev, son entraîneur, mais qui n'est pas vraiment... C'est John Scully qui est proche de lui, là, mais l'entraîneur est Marc Ramsey. Scully a dit « Oubliez ça, on ne monte pas chez les 200 livres après une éventuelle victoire contre Peter Biev. » On sait que le Turquie Alakchik, à qui je veux embrasser les pieds, voulait organiser un combat entre le gagnant de Peter Biev Bivol et Jay Opetaia, l'ancien champion de la IBF, qui est le meilleur boxeur chez les 200 livres. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre? Teofimo Lopez affronterait Virgil Ortiz. Je comprends pas trop. À moins que je me trompe de nom. Je suis mêlé. Encore une fois, je suis mêlé un peu. Teofimo Lopez va affronter. Je sais plus qui, là, mais en tout cas, là, il y a Teofimo Lopez qui veut affronter Jamen Ortiz. Ouais, je m'étais trompé d'Ortiz. J'ai nommé le 154 au lieu de nommer le 140. Il accuse Teofimo Lopez de vouloir simplement la grosse argent pour affronter son fils et non de faire ce qu'il a à faire dans sa carrière. Jermall Charlot, maintenant, serait numéro 1 pour affronter Canelo le 4 mai sur Amazon Prime. En plus de nous envoyer notre papier de toilette par la malle quand on ne veut pas se lever pour aller à l'épicerie, ils vont nous donner les combats qu'on veut. Bon, mais ça, on ne le veut pas, là, mais ils vont nous donner de la boxe. Qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Et le mot de la fin, je le donne à Francis Paquin qui a écrit, et je cite, « Si tu laisses Eddie Hearn sur une île déserte avec un miroir, il va être correct finalement. » Merci, à la prochaine. Je vous aime tous d'un amour profond.